Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
19h sur CNews, ravi de vous retrouver pour 16 disputes avec Julien Drey. Merci d'être avec nous, Julien, fondateur du parti.
Bonjour. Non, pas parti, mouvement. Restons en mouvement. Ça deviendra parti peut-être un jour, mais d'abord on va commencer par un mouvement. On va pas autoproclamer un parti comme ça.
D'accord, un mouvement qui va devenir un parti.
Quand il aura bien travaillé.
Croisons les doigts. Alexandre Devecchio, rédacteur en chef adjoint du Figaro.
C'est ça. Voilà.
Ouais. Ouais.
Pas de parti, pas de mouvement.
Bon, dans un instant, on commence les débats, mais vous connaissez la règle. Il y a la minute info. Qui a dit Jean-Luc Mélenchon ne peut pas être celui qui rassemble la gauche et les écologistes? Tiens. Ah, pas facile, hein? La réponse après la minute info.
Emmanuel Macron sera investi ce samedi pour un second quinquennat. L'Élysée annonce une cérémonie sobre qui s'enracine dans l'histoire de la République. Le président fera son entrée à 11h dans la salle des fêtes du palais. 500 personnes sont attendues, ses proches, des membres du gouvernement, des anciens présidents, des soignants, des sportifs ou encore des responsables d'associations. Les Républicains lancent officiellement leur campagne pour les législatives. Près de 400 personnes, dont une centaine de candidats au scrutin, sont attendues ce samedi au Conseil national. Il se tiendra à huis clos au siège du parti à Paris. Les candidats devront signer une charte affirmant leur indépendance politique. Le Puy du Fou s'exporte aux États-Unis avec un nouveau spectacle inspiré de l'histoire du peuple Cherokee. Il sera monté dans l'État du Tennessee, berceau des Cherokees. L'annonce, l'accord a été conclu jeudi entre le parc d'attractions vendéen et des représentants Cherokees. Le spectacle verra le jour en 2024.
Voilà pour la minute info. Chose promise, chose du 10 juin 2021. Donc c'était il n'y a pas si longtemps. Jean-Luc Mélenchon ne peut pas être celui qui rassemble la gauche et les écologistes. Qui a dit ça?
François Hollande?
Non.
Anne Hidalgo?
Non, mais elle tenait à peu près le même discours. Olivier Faure, et j'en ai d'autres, c'est une surprise. On va parler du Parti Socialiste pour commencer, qui se déchire en cause de cette alliance actée avec la France Insoumise pour les législatives, un accord historique qui scellera peut-être l'avenir du parti. On va en parler dans un instant. Olivier Faure, premier secrétaire du PS et grand artisan de cette alliance, essaie de se raccrocher aux branches. Regardez ce qu'il a dit à la sortie de cet accord.
Nous ne sommes pas devenus insoumis. Les écologistes ne sont pas devenus insoumis. Les communistes ne sont pas devenus insoumis. Pas plus qu'hier, ceux qui nous rejoignaient étaient devenus socialistes. Il faut maintenant dépasser et faire en sorte que dans les prochaines semaines, eh bien les Françaises et les Français aient le sentiment de voir un front uni, une gauche unie, qui se bat pour eux et non pas les uns contre les autres.
Est-ce qu'il a raison, Olivier Faure? Ils ne sont pas insoumis. Ou alors, on peut aller un peu plus loin. Est-ce qu'ils sont soumis à l'argent, au siège? Et ils oublient en quelque sorte les idéologies. Alexandre Devecchio.
Alors oui, les deux, effectivement, ils sont soumis. Voilà, il s'agit de sauver leur place d'élu. Hein, on a bien compris. Maintenant, est-ce que le PS avait vraiment une idéologie? Il en a eu dans le temps, mais est-ce que ça fait pas longtemps qu'ils sont divisés, émiettés, et qu'ils ne savent plus très bien ce qu'ils pensent? Moi, je crois que c'est une évolution très longue. On fête là les 30 ans du traité de Maastricht et du discours de Maastricht de Philippe Séguin. Déjà là, il y avait une fracture entre une gauche européenne et une gauche européenne, et d'ailleurs entre une droite européenne et une droite souverainiste. Et on voit que ces deux partis, ces deux vieux partis, finalement, sont en train de se décomposer parce qu'à l'intérieur, il y avait des gens qui pensaient radicalement la même chose. Bah, au PS, il y a effectivement cette question de l'Europe, mais il y avait la question de la laïcité. Au moment des événements de Creil, il y a la première affaire de voile à l'école, ça se déchire. D'ailleurs, le SOS racisme est plutôt pour le multiculturalisme. Alors certains ont fait leur mea culpa, mais d'autres non, restent sur cette ligne-là. Donc on voit bien que le PS était déjà une espèce d'auberge espagnole. Certains sont pour le marché, le libéralisme économique, d'autres pour une première gauche. Et que finalement, faute de définir un cap, c'est devenu un syndicat d'élus. Et les syndicats d'élus finissent par mourir. Donc ils ont conservé quelques villes. C'est devenu un pouvoir local, mais c'est plus un pouvoir national depuis longtemps. Et c'est plus un pouvoir du tout. Donc voilà, ils essaient de... on a quelques individus qui essayent piteusement de sauver leur siège.
Je viendrai.
Oh, j'avais anticipé. Bon, je ne veux pas dire que j'étais un génie, hein, mais j'avais anticipé que c'était la fin d'une histoire. Et je vais vous dire une chose, j'étais content hier de ne pas être dans le Conseil national. Parce que me connaissant mon caractère méditerranéen, je ne suis pas sûr que je regardais mon calme, vu les arguments qui ont été avancés à ce moment-là pour remporter l'accord. Bon, je pense que c'est la fin d'un certain parti socialiste, celui d'Épinay, celui de Lionel Jospin, et qu'il va falloir en faire un autre. Celui-là, je crois qu'il a perdu son âme, il s'est soldé pour pas cher. Mais je voudrais faire une précision. Dans l'argumentation que vous avez entendue tout au long de la semaine,
oui.
Vous avez entendu qu'on vous a expliqué que tout ça, c'était la faute. C'était une nouvelle génération qui réglait son compte aux éléphants, qui maintenant allait avoir les mains libres, etc. Mais c'est un mensonge, si vous me permettez.
Ils sont pieds et poings liés avec les insoumis.
Mais d'abord, c'est un mensonge parce que cette jeune génération, c'est celle qui a dirigé le parti depuis 2017. Ils ne sont pas sortis hier. Ils ne sont pas venus. Voilà, c'est eux qui l'ont dirigé. C'est eux qui, aux européennes, dirigent le Parti socialiste en allant chercher M. Glucksmann avec un score lamentable. C'est eux qui entraînent Mme Pulvar, la pauvre Mme Pulvar, dans une régionale où elle se prend que des coups parce qu'évidemment, ils ne la soutiennent pas comme il fallait. C'est eux qui vont chercher Mme Hidalgo et qui la soutiennent. Alors que, voilà, donc moi, je suis pour que, si vous voulez dire les choses telles qu'elles sont, c'est trop facile. Et ça révèle d'ailleurs la faiblesse culturelle et intellectuelle de cette équipe. C'est trop facile d'essayer de trouver, de se défausser de ses propres responsabilités sur le reste, les années passées, etc.
Alexandre Devecchio disait que le mal ne vient pas seulement ça.
Vous entendre là-dessus.
J'allais venir.
Vous laissez un cadavre à la rondeur.
Mais justement, ils avaient 5 ans pour faire ce travail de refondation. C'est là où il aurait fallu travailler. Et c'est pour ça que moi j'en suis parti, parce que à force de leur proposer tout ce que je savais que j'avais appris pour leur dire travaillons à cette refondation, à chaque fois on n'a pas tenu compte, on est allé dans des solutions d'effacement, et finalement on s'efface totalement aujourd'hui. Alors
vous avez une part de responsabilité? Quand je dis vous, c'est vous les éléphants, comme on les surnomme aujourd'hui. Est-ce que vous avez une part de responsabilité dans cette débat du Parti Socialiste?
D'abord, moi je ne suis pas en train de dédouaner François Hollande et le quinquennat d'Hollande. Je pense qu'il fallait faire un inventaire. Ce n'est pas le quinquennat horribilus, mais il fallait faire un inventaire, marquer les divergences, comme on l'avait fait dans d'autres échecs électoraux, et où on avait discuté, dialogué avec les Français en faisant cet inventaire lucide et à partir de là en reconstruisant. Mais là, quel est le problème qu'ils ont? C'est quand ils se présentent à cette élection présidentielle, ils n'ont pas de projet, ils n'ont pas travaillé dessus. Ils ont pris ils ont fait quelques auditions, ils ont pris quelques éléments comme ça, mis bout à bout, mais il n'y a pas une idée forte, vous savez, sur un certain nombre d'entre elles, ce que je pense, notamment par rapport à la jeunesse, mais par rapport à la laïcité, par rapport à l'éducation. Tout ça n'a pas été. Tout ça, effectivement, est le fruit d'un travail qui n'a pas été fait, sur les 5 années qui viennent de s'écouler, et qui n'a pas été fait, d'ailleurs, d'après moi, depuis 2002. C'est-à-dire que c'est la défaite de 2002 qui va entraîner, cette cette fainéantise intellectuelle. Alors elle est d'autant plus forte, cette fainéantise intellectuelle, qu'évidemment, le Parti Socialiste s'installe dans la gestion locale. Donc la gestion locale devient l'alpha et l'oméga de sa vie. Voilà.
Vous avez dit, heureusement que je n'étais pas là hier, parce que sinon j'aurais perdu mon calme. On va voir cette séquence assez intéressante. Lorsque Olivier Faure prend la parole et il dit, il précise ses propos, parce que cette semaine il avait quand même dit... Je résume, ceux qui ne veulent pas de cette alliance et qui veulent aller chez Emmanuel Macron, grand bien leur fasse. Mais ils n'ont plus leur place chez nous. Regardez.
La phrase complète, je vais la répéter pour que tout le monde l'entende. J'ai dit, si vous pensez que vous n'appartenez plus à l'espace commun de la gauche, si vous pensez que votre avenir est plutôt avec Emmanuel Macron... Mais très bien, si tu veux clarifier tes positions, mais je vais aller jusqu'au bout. Allez. Baisse un peu de ton. Baisse un peu. Mais je ne vois pas en quoi je t'insulte, parce que si tu ne te sens pas... Mais... Franchement.
Alexandre Devecchio, il y a tout dans cette séquence.
Oui, c'est pathétique. Hein. On voit bien qu'il ne reste plus grand-chose en réalité. C'est un leader qui n'en est pas un. En fait, c'est un syndicat. Enfin, c'est une liquidation de faillite, ce qui est en train de se passer. Mais bon, c'est le résultat d'années et d'années. Alors, il y a 2002, mais ça pourrait presque remonter avant, finalement. Le tournant de 83. Le tournant de 83 n'a jamais été de Mitterrand qui finalement dit c'est la rigueur, c'est le libéralisme économique. On a toujours été dans cette ambiguïté là. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'aujourd'hui Olivier Faure choisit en quelque sorte la première gauche, même si c'est une première gauche bien radicale et un peu woke, alors qu'il vient plutôt d'un courant libéral. Il a été proche de François Hollande, mais si vous voulez, tout ça n'a jamais été tranché. On est resté dans l'ambiguïté. On est resté aussi ensemble des gens qui ne pensaient pas la même chose pour occuper des postes, et aujourd'hui voilà, ça se termine comme ça. Olivier Faure, il n'aurait pas dû être là en réalité. Il n'a pas de charisme, c'est pas quelqu'un qui compte à gauche. Pourquoi est-ce qu'il est aujourd'hui secrétaire du PS? C'est aussi parce que les autres n'ont pas voulu prendre leurs responsabilités. Donc je veux bien entendre Julien Drey expliquer que tout est de la faute d'Olivier Faure, mais en réalité Olivier Faure a été là pour ramasser les miettes. Personne n'a eu le courage non plus dans ceux qui comptaient, qui pesaient à gauche, d'essayer de ressusciter ce parti.
Alors, je ne crois pas que la projection qu'essaye de faire Alexandre est la bonne, parce que c'est pas vrai, parce qu'il y a eu la victoire de 97. Et il y a eu un quinquennat Lionel Jospin, alors qui se termine mal en 2002, mais qui a marqué l'histoire de la gauche.
Qui se termine par Jean-Marie Le Pen au
second
tour.
Mais qui se termine parce que, on pourra y revenir, parce que Lionel Jospin était obsédé par le deuxième tour, elle n'a pas préparé la première, et pourtant il se présentait avec un bilan qui était loin d'être négligeable du point de vue de la réalisation. Et justement, il y avait peu de déceptions, comme on a connu par exemple en 93. Mais bon, donc c'est pas la coupure sur l'Europe qui est là. Il y a d'autres choses qui devaient être analysées. Je pense notamment, pourtant ça m'étonne que vous ne l'ayez pas vu, tous les problèmes montés, la violence, la question de la ghettoisation,
la question de l'Europe, le marché, la sécurité, la laïcité.
Il y a une gauche européenne par ailleurs qui réussit dans bien d'autres pays, et voilà, on ne comprend pas pourquoi il n'y a qu'en France que ça ne marche pas, alors que ça réussit au Portugal, ça réussit en Espagne, ça réussit en Allemagne, etc. Bon, donc je pense que. Alors moi je ne suis pas en train de dire que c'est la faute à Olivier Faure. Puis point à la ligne, et les autres ne sont pas. Moi, j'ai reproché d'ailleurs à un certain nombre de mes camarades expérimentés de m'avoir laissé tout seul pendant 4 ans au Bureau national. C'était moi qui étais le plus ancien. Je leur ai dit, mais vous ne pouvez pas faire ça. Il faut aider le parti, il faut travailler. Il faut venir aux réunions. Ouais. Vous ne pouvez pas toujours être à l'extérieur et puis attendre quoi? Vous êtes retiré. Ils ne l'ont pas fait. Alors, évidemment, ils s'énervent maintenant en disant, vous avez abandonné, mais ils n'ont pas travaillé comme il fallait. Alors, après. Vous avez raison sur une chose, je vous le concède. Le choix d'Olivier Faure, après la défaite, était un choix effectivement voulu par un certain nombre de grandes baronnies locales qui ne voulaient pas avoir un parti qui se reconstruit centralement. Voilà, j'étais au congrès, j'étais moi-même plutôt prêt à faire le travail, je leur avais dit. Mes camarades éléphants ne m'ont pas aidé, évidemment, comme toujours, c'est pour ça aussi que j'en suis parti. Puis j'en avais assez de faire, comme le dit le titre d'un livre, le sale boulot, et de jamais pouvoir être moi-même. Mais ils n'ont pas fait ce travail-là. Voilà. Et donc c'est pour ça que tout ça, c'est délité. Et ce qui est posé comme problème, et je finis là-dessus, c'est pas moi c'est là où ils se sont fait piéger les uns les autres. La bataille, c'est pas la bataille sur l'unité. Parce que la bataille sur l'unité, le Parti Socialiste, c'est consubstantiel à son identité depuis qu'il est fondé en 1971. La bataille, c'est sur le contenu. Et à ce stade-là, c'est d'ailleurs pour ça que j'étais un peu surpris qu'hier, que j'entendais plus ou moins ou de ce qu'on m'a raconté, je ne sais toujours pas. Quelle est la plateforme politique de cette alliance? Quel est le contenu? On est toujours en attente de cela. Et c'est quand même un problème, parce que si les échos que j'en ai sont réels, là, il va y avoir des problèmes politiques.
C'est-à-dire
sur l'Europe, sur la question de la retraite à 60 ans, sur la question de l'OTAN, sur la question y compris d'un certain...
Mais est-ce qu'ils sont assez nombreux pour qu'il y ait des ennuis politiques? Moi, je vois des gens très affaiblis, sans charisme, sans poids politique, et qui sont tout simplement en train de se faire avaler par Jean-Luc Mélenchon en échange de quelques postes.
Jean-Luc Mélenchon, justement, il rêve de Matignon. Vous y croyez ou pas, Julien Drey?
Je pense qu'il faut... D'abord, il ne faut jamais sous-estimer Jean-Luc Mélenchon. C'est l'erreur. Y compris, c'est l'erreur de François Hollande qui souvent l'a sous-estimé. Et c'est pour ça qu'il en a pris ombrage dénommé Jean-Luc Mélenchon et qu'il est en train de tenir quelque part sa revanche. Il dit, t'as vu, moi je suis là, toi tu regardes les trains passer. Donc faut jamais le sous-estimer. Mais surtout, il a réussi quelque chose, il faut être honnête. Il a réussi à vendre l'idée qu'il y avait un troisième tour et que ce troisième tour, il pouvait le gagner. C'est ça cette histoire d'affiche de Élisée Mélenchon Premier ministre. Et c'est vrai qu'il y avait deux choses qui existaient au soir de l'élection présidentielle. Un certain nombre de gens qui ont voté Emmanuel Macron, mais qui avaient du ressentiment et une sorte de colère de ne pas avoir pu voter comme ils voulaient. Et que deuxièmement, c'est vrai que dans une partie de la gauche militante notamment, l'idée que finalement l'unité se refaisait, qu'on était tous ensemble, est une idée qui reste populaire. Donc il est adossé à cela. C'est la campagne maintenant qui va prendre forme. Et là, on va voir ce qui va se passer.
Alors, comme Julien Drey, je dis chapeau l'artiste. Jean-Luc Mélenchon est très fort. Il a réussi à créer un slogan, créer une attraction autour de lui. Il va animer cette campagne des législatives qui promettait et qui promet d'être aussi nul que celle des présidentielles. Maintenant, est-ce que je crois à sa victoire finale? La réponse est non. On commente la chose comme s'il s'agissait d'un scrutin proportionnel. C'est pas le cas. C'est pas celui qui arrive en tête au premier tour qui gagne. Il va y avoir un second tour.
Enfin, s'il arrive en tête, c'est un tournant.
Ce sera une énorme surprise au premier tour. Mais je peux vous dire qu'il y aura un tir de barrage au second. Et je pense que celui qui profitera de tout ça, encore une fois, et là aussi chapeau l'artiste, c'est Emmanuel Macron. D'ailleurs, vous voyez qu'il a pas l'air très inquiet, qu'on l'entend pas beaucoup. Il va finir d'aspirer une partie de la bourgeoisie aisée qui était peut-être restée à droite, il va finir de l'aspirer, parce que la réalité, c'est que il va faire la percée de Mélenchon fait peur à cet électorat légitimiste qui a voté avec pour Emmanuel Macron sans grand enthousiasme et en pensant que c'était le meilleur pour conserver le statu quo. Il va falloir le remobiliser. Et quel meilleur moyen de le remobiliser que de mettre en avant cet épouvantail qu'est Jean-Luc Mélenchon.
Nouvelle suspension d'une semaine dans le procès du 13 novembre. L'un des 11 accusés comparaissant a été testé positif au Covid-19 à l'audience jeudi. Cette interruption intervient au troisième jour de l'audition de près de 90 parties civiles. L'audience ne reprendra pas avant le 17 mai. Le verdict, quant à lui, est attendu fin juin. L'État a été condamné à verser un peu plus de 1,4 million d'euros à la ville de Paris. L'annonce a été faite ce vendredi par la mairie de la capitale. Une indemnisation pour les dégâts causés lors des manifestations des Gilets jaunes. La condamnation a été rendue publique par le tribunal administratif de Paris. Elle porte sur la période de novembre 2018 à décembre 2019. Jubilé d'Elisabeth II, Harry, Meghan et Andrew seront absents du balcon de Buckingham. La traditionnelle apparition sera limitée à Sa Majesté, aux membres de la famille royale, ceux qui effectuent des engagements publics officiels au nom de la reine. 4 jours de festivités du 2 au 5 juin sont prévus pour célébrer les 70 ans de règne de la reine Elisabeth II.
Pour la Minute Info, il y a un sondage très intéressant publié il y a quelques instants dans le Figaro sur quel Premier ministre voulez-vous. C'est une question qu'on posait aux Français. Une grande majorité répondent que la qualité première du prochain Premier ministre, ce soit la sincérité. Julien Drey, qu'est-ce qu'il y a de sincère dans cette alliance entre le Parti Socialiste et la France Insoumise?
Ah non, mais je crois que le problème, c'est pas un problème de sincérité, c'est que Jean-Luc Mélenchon a fait un coup de poker bien fait, c'est-à-dire il a dit voilà, c'est comme ça, et les autres ont eu peur, voilà. Mais sur le fond, il y a, c'est pour ça que, si vous me permettez,
c'est le programme là.
C'est le programme qui va pouvoir nous montrer les choses. Mais je voudrais revenir juste 2 secondes parce que j'ai pas eu le temps de répondre à ce que disait Alexandre. Moi, je crois que si Emmanuel Macron fait cette erreur, c'est-à-dire de diaboliser Jean-Luc Mélenchon, en croyant qu'il va gagner grâce à
lui. Il a réussi avec Marine Le Pen.
Oui. Non, mais ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas les mêmes personnages.
Pourquoi ?
Parce que ce n'est pas la même personnalité.
Je pense que vous êtes plus inquiet au fond de vous, j'aimerais dire ça, par le fait que Jean-Luc Mélenchon puisse être Premier ministre, finalement, que par le fait que Marine Le Pen puisse exercer
Marine
le pouvoir.
Marine Le Pen, il y avait une histoire, qui était l'histoire de l'extrême droite en France, et donc il y avait des réflexes qui continuaient à jouer, et on l'a vu, y compris dans le vote du premier tour, autour du vote d'Emmanuel Macron, ou même du vote de Jean-Luc Mélenchon. Mais il y a des colères dans ce pays qui n'ont pas disparu dans la campagne. Et le vote de la peur, il fait 35%. Il y a tout le reste. Et vous pouvez avoir dans cette campagne électorale une forme de coalition de rejet qui se forme et qui se met en place. Donc c'est pour ça que moi je pense pas que cette campagne législative doit être une mauvaise campagne, je crois que c'est une bonne campagne et il faut qu'il y ait une confrontation idéologique importante et il faut débattre sur le fond des projets parce que la majorité législative c'est aussi ce qu'elle va faire après à l'Assemblée
nationale. On se rejoint sur un point, c'est effectivement la colère sourde dans le pays, mais est-ce qu'elle va se coaliser derrière Jean-Luc Mélenchon? Je ne sais pas, parce qu'il fait peur aussi à des gens qui sont attachés à la question de la laïcité, à la question de la sécurité, et qui, je pense, n'iront pas voter pour lui. Mais c'est vrai qu'il y a un grand malaise démocratique dans le pays, on se rejoint là-dessus, et qu'Emmanuel Macron a été mal élu. Et si Jean-Luc Mélenchon fait un gros score, parce que je pense qu'il ne va pas gagner, mais qu'il fera un gros score, c'est aussi le résultat d'une élection par défaut.
Non mais Mélenchon, il va être caméléon. Donc là, vous allez découvrir dans cette campagne, non pas le Mélenchon du bruit et de la fureur, parce qu'il est tout sauf stupide. Mmh. Il va, dès demain, il va être très rassembleur, il va tendre la main, il va proposer de dire à toutes les forces qui veulent travailler à l'avenir de la République, etc. Il va faire très attention. Je ne crois pas qu'il fera des fautes grossières.
Vous avez raison quand vous parlez de caméléon. 25 janvier 2022, Jean-Luc Mélenchon, le Parti Socialiste, il ne sert à rien.
Voilà. Non mais j'en ai, si vous voulez.
Mais on en a d'autres, j'ai quand même fait l'effort, par acquis de conscience, de tendre la main. Ça c'était le 7 octobre dernier. Réponse non, c'est au tour du Parti Socialiste que doit se faire la coalition majoritaire. Ah bon? Pourquoi? Parce que vous êtes né dans une cuillère, avec une cuillère en argent dans la bouche. Voilà ce que disait Jean-Luc Mélenchon. Avançons un peu. Et Alexandre, vous avez dit un truc, quelque chose d'intéressant tout à l'heure. Vous avez dit le président de la République, Emmanuel Macron, se fait discret. Mais il y a quelqu'un d'autre qui se fait encore plus discret cette semaine, c'est Marine Le Pen. Où est passée Marine Le Pen? Alors que la gauche mène une bataille commune pour remporter ses législatives, les partis de droite continuent de faire cavalier seul. Marine Le Pen, aux abonnés absents cette semaine, c'est Jordan Bardella qui assure l'intérim. Écoutez ce qu'il disait aujourd'hui.
Marine a sort d'une campagne présidentielle qui a été très longue, qui a été une campagne éprouvante aussi. Elle avait besoin de prendre quelques jours pour se reposer. La différence avec Emmanuel Macron, c'est qu'elle n'est pas entrée en campagne à 15 jours de l'élection et que donc elle a pris quelques jours pour se reposer, pour penser à la suite et pour réfléchir à la stratégie que nous allons mettre en œuvre. Mais elle sera de retour dans quelques jours, rassurez-vous. Marine Le Pen ne veut pas être Premier ministre d'Emmanuel Macron. Je veux dire, Marine Le Pen nous ne souhaitons pas être des ministres d'Emmanuel Macron. On souhaite pas participer du saccage social, de l'explosion de la fiscalité sur l'essence.
Et si Marine Le Pen
de
est Premier ministre, pardon, mais elle conduira la politique qu'elle
dans
souhaite,
notre pays.
Celle
oui, mais
du Rassemblement National.
Vous savez très bien, et en me disant cela, vous ne croyez même pas vous-même qu'Emmanuel Macron n'aura pas la majorité.
Fascinant quand même. Non, à quoi ça sert de faire campagne dans ces cas-là?
Oui, c'est bizarre. Non, mais c'est... Pourtant, Jordan Bardella est plus fin que Marine Le Pen, mais là, je pense que politiquement, c'est désastreux. Et si Jean-Luc Mélenchon est aussi fort, il est fort de l'incroyable faiblesse du Rassemblement National, parce que c'est eux qui devraient être les animateurs de cette campagne. Elle a fait 40%, je le rappelle, un score historique. En vérité, les idées du Rassemblement National, quoi qu'on pense de la personne de Marine Le Pen ou de l'histoire du parti, sont aujourd'hui majoritaires sur l'identité, la souveraineté, l'immigration, la laïcité et même le social. Je vois pas pourquoi elle en laisserait le monopole à Jean-Luc Mélenchon. On a vu qu'elle savait en parler, qu'elle était pour la retraite à 60 ans, qu'elle se battait sur le pouvoir d'achat. Simplement, on voit les masques tombent, je crois, après cette présidentielle. Marine Le Pen ne veut pas le pouvoir. C'est pas possible autrement. Elle gère son parti comme une boutiquière. Elle sera peut-être contente avec 15 députés pour avoir un groupe, mais il lui en faudra surtout pas trop, parce que ce serait compliqué à contrôler. On voit bien qu'elle aurait pu créer un élan. Toutes les conditions étaient réunis, une droite jamais aussi faible, un parti Reconquête avec lequel ça s'était mal passé, mais qui lui permettait peut-être d'avoir enfin une alliance. Tout se passe comme si il ne voulait pas une France qui n'a jamais été autant à droite, en tout cas autant en demande de protection aussi bien culturelle que sociale. Tout se passe comme si elle ne voulait pas gouverner. D'ailleurs, c'est un aveu. Nous ne voulons pas être les ministres de Emmanuel Macron. Mais enfin, s'il remportait les législatives, certes, c'est pas peu probable, mais il pourrait gouverner quand Lionel Jospin est le premier ministre de Jacques Chirac, c'est lui qui gouverne. Il n'est pas le ministre de Jacques Chirac. Donc là, c'est un lapsus révélateur, finalement, d'un parti qui n'arrive pas à se penser comme un parti de gouvernement.
Julien Drey,
la prestation de Jordan Bardella est surprenante. si vous me permettez.
Alors c'est un monte. Alors c'est, il faudrait reprendre toute la séquence en long, hein, parce que
moi,
c'est
je, montée. Hein, bien bon, je sais pas. Bon, elle a, c'est à juste titre, pris du temps pour se reposer. Ça, on peut pas lui reprocher. Elle sait qu'elle est campagne législative. Moi, je m'attendais à ce qu'on.
Jean-Luc Mélenchon, il bat campagne. Emmanuel Macron.
Il a batté pas campagne. Il a laissé il a participé de très loin aux négociations. Il a laissé toute son équipe négocier les choses. Alors, je dis pas qu'il n'était pas tenu au courant.
Il faisait les allers-retours au QG.
Il a pas passé des nuits blanches. Bon, c'est normal d'ailleurs. On ne peut pas lui reprocher ça. Moi, je m'attendais, si vous me permettez, c'est pour ça que je suis un peu surpris, je m'attendais à ce qu'il sorte la même affiche que Jean-Luc Mélenchon. C'est-à-dire que Marine Le Pen, Premier ministre. Parce qu'à partir du moment où Jean-Luc Mélenchon s'est situé dans un troisième tour, c'est normal et logique de son point de vue qu'elle se situe elle aussi dans un troisième tour. C'est pour ça que la déclaration de Anne Bordella, c'est la déclaration de quelqu'un qui a perdu un set et qui vient et qui dit « j'ai perdu le match, donc ça ne sert plus à rien de jouer ». C'est là, en ce sens-là, que c'est surprenant. Oui, je suis d'accord. Alors est-ce qu'ils vont être sur cette ligne-là? C'est vrai qu'ils ont un électorat qui est mobilisé essentiellement par la présidentielle.
Qui plus est, pour essayer de mobiliser par tous les moyens.
Qui plus est, voilà.
Ce que fait Mélenchon, son électorat n'est pas super mobilisé non plus, et il sait très bien.
Qui plus est, on le sait, c'est un électorat qui vient voter, parce que c'est un électorat populaire, qui va voter pour Marine Le Pen. Bon, alors est-ce qu'ils vont corriger dans les heures à venir, dans les jours à venir ou si, mais c'est vrai que s'ils vont à la bataille comme ça, ils auront très très peu de députés. Hein.
La publicité, messieurs, dans un instant, on parlera très rapidement de cette nouvelle ère du côté de la majorité, Renaissance. Il y a une photo qui circule sur les réseaux sociaux, qui a été largement commenté. Je vais vous demander que vous inspire cette photographie où on voit les quatre piliers de cette majorité avec François Bayrou, avec Édouard Philippe et Richard Ferrand. On revient dans un instant.
Parce que c'est important.
La suite de Ça se dispute avec Julien Drey et Alexandre Devecchio. On parlait il y a juste avant la publicité de cette déclaration un peu surprenante de Jordan Bardella. On va la réécouter en long. Pourquoi ? Parce que c'était deux sons qui étaient montés, raccourcis un petit peu, donc ça pouvait être un peu perturbant. La Minute Info, et on réécoute Jordan Bardella juste après. Ah, la Minute Info, ce sera dans quelques instants. Est-ce qu'on écoute Jordan Bardella ? On écoute Jordan Bardella.
Marine sort d'une campagne présidentielle qui a été très longue, qui a été une campagne éprouvante aussi. Elle avait besoin de prendre quelques jours pour se reposer. La différence avec Emmanuel Macron, c'est qu'elle n'est pas entrée en campagne à 15 jours de l'élection et que donc elle a pris quelques jours pour se reposer, pour penser à la suite et pour réfléchir à la stratégie que nous allons mettre en œuvre. Mais elle sera de retour dans quelques jours, assurez-vous. Probablement début de semaine prochaine. Début de semaine prochaine pour d'abord se présenter aux Français et présenter aux Français les axes que nous allons mettre en œuvre durant cette campagne législative. Et puis surtout, elle va être amenée à faire une tournée, une grande tournée partout en France pour soutenir nos candidats. Je vous rappelle que nous dépassons les 40% dans plus de 340 circonscriptions au second tour, ce qui veut donc dire que nous pouvons avoir un groupe puissant à l'Assemblée nationale pour éviter qu'Emmanuel Macron ait le plein pouvoir. Je pense que si Emmanuel Macron a le plein pouvoir, ça va être cataclysmique pour la démocratie.
Julien Drey, bon voilà, il veut un groupe puissant, mais il veut pas être Premier ministre, du moins le Rassemblement national.
Oui, mais
ne veut
ses
pas
propos sont plus nuancés.
Marine Le Pen,
il va pas, il va pas comme il abandonne pas la bataille. Il dit lui-même, on veut essayer de faire un contre-pouvoir. Alors, je peux mieux comprendre cette stratégie-là, c'est-à-dire on commence doucement parce qu'on entérine l'élection présidentielle et on se lance pas tout de suite à l'assaut en disant on remet en cause le résultat et puis on monte en puissance progressivement dans la campagne. Ça peut être une autre stratégie. Bon, c'est la stratégie que souvent, quand nous avons perdu les élections, on employait nous.
Voilà, Alexandre Devecchio, ça vous convient ça ?
C'est un peu plus, un peu moins défaitiste, je dirais, que de dire je ne veux pas être, surtout pas être ministre. Je le répète, il y a un côté aveu. Moi, je trouve, dans les paroles de Jordan Bardella, qui est assez révélateur sur ce parti, même le fait que Marine Le Pen soit en vacances, il n'a pas l'air de savoir quand est-ce qu'elle revient. Ça fait penser au moment où elle a dansé il y a 5 ans après sa défaite. C'est quand même une désinvolture surprenante face à un homme, Jean-Luc Mélenchon. Qui, avec talent, est rentré tout de suite dans la campagne. Et effectivement, moi, je pense que Jean-Luc Mélenchon
a perdu au premier tour et pourtant
on a l'impression qu'il était au deuxième tour et qu'il a presque gagné le deuxième tour. Et quand il dit je vais être premier ministre de Macron, je pense qu'il le pense pas, mais c'est quand même un moyen de remobiliser des électeurs. Là, ils ont un problème structurel. Le RN, ils ont des électeurs qui se mobilisent pour la présidentielle difficilement et très peu pour les législatives. Donc quand Jordan Bardella dit on fait plus de 40% dans je ne sais plus combien de circonscriptions. C'est vrai pour la présidentielle, mais ce ne sera pas vrai pour les législatives. C'est pour ça qu'il faut qu'il aille les chercher un par un. Et ce n'est pas ce qu'ils font. Parce que je pense qu'ils s'en foutent.
19h30, messieurs, bon, la minute info. La minute info. Et ensuite, on avance un peu.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky estime que la ville de Mariupol est complètement détruite. Il ne resterait rien à prendre pour la Russie à part son aciérie. La ville comptait près de 500 000 habitants avant la guerre. Elle a été dévastée par 2 mois de siège et de bombardements. Une spéléologue décède lors d'une sortie scolaire dans une grotte de l'Isère. Elle encadrait des collégiens en 5e ce jeudi. Surprise par la montée des eaux, elle a été retrouvée morte par les secours. Les autres participants sont sains et saufs. Le parquet de Grenoble a ouvert une enquête sur les circonstances de l'accident. Tous les indicateurs semblent au vert avec une diminution de la circulation du Covid-19 et des hospitalisations. Mais attention, l'épidémie est contrôlée mais certainement pas terminée, préviennent les scientifiques. Certaines restrictions toujours en vigueur pourraient néanmoins être levées prochainement.
Voilà pour la Minute Info. Julien Drey, un dernier mot sur Marine Le Pen et ensuite on passe à la majorité.
Sur Marine Le Pen, moi je ne vais pas la défendre, je ne suis pas son avocat. Donc ça me m'ennuyait avec Alexandre parce que à chaque fois je me retrouve dans une situation, lui là, il focalise tout sur elle. Donc je pense qu'on ne peut pas lui reprocher d'être parti en vacances pendant une semaine pour se reposer ou d'avoir fêté malgré tout le score historique qu'elle a fait. Bon, la question c'est effectivement par contre, c'est est-ce que le Front National va essayer d'exister dans les législatives comme une alternative politique, ou est-ce qu'il va simplement essayer de collectionner quelques postes de députés ?
Je ne suis pas son avocat, mais c'est le Rassemblement National.
Rassemblement National, excusez-moi.
Bon, moi, voyez, Emmanuel Macron.
Maintenant, juste une autre remarque. Ah. Ne sous-estimez pas, je m'excuse de vous le dire, je vous écoute, Alexandre, depuis le début de l'émission, mais Jean-Luc Mélenchon, il croit qu'il va être Premier ministre. Visiblement, au bout de 10 ans, 20 ans, vous ne le connaissez pas toujours, il y croit vraiment. Il ne fait pas ça simplement il a fait une manœuvre politique formidable parce qu'en face de lui, les autres sont des joueurs de poker nuls, si vous me permettez l'expression.
On se rejoint là-dessus.
Là, ils sont nuls, ils n'ont rien compris, il leur a fait un bluff, comme on dit. Oui, et le bluff a marché parfaitement. Mais lui, il croit qu'il est en capacité de devenir Premier ministre. Il ne fait pas ça simplement pour la forme.
Il nous reste encore une vingtaine de minutes et on a beaucoup de thèmes à aborder. Je veux juste vous montrer cette photo qui est assez intéressante. La majorité qui fait peau neuve, le nom change, les ténors absolument pas. Oubliez La République En Marche, place à Renaissance, une alliance avec le Modem, l'AREM et Horizon. Richard Ferrand, Stanislas Guérini, Édouard Philippe qui a l'air très heureux sur cette photo et François Bayrou. Que vous inspire cette photo, Julien Drey?
Alors il y avait un film que j'adorais, c'était L'aventure, c'est l'aventure.
Ah.
Mais là c'est pas du tout L'aventure, c'est l'aventure. Hein. Ah, oui. Ils sont là tous les quatre.
Là c'est la grande déprime.
C'est la grande dépression. En plus, je sais pas qui c'est qui les a conseillés, mais en plus, je dirais en général, maintenant on essaye de faire que les choses soient paritaires, représentatives. Là c'est vraiment les quatre vieux mâles qui sont là. François Bayrou a l'air fatigué et Édouard Philippe a l'air de dire vous m'avez eu. Franchement, j'aimerais bien que, si vous voulez, on pourrait mettre des bulles au-dessus. Et là ça serait marrant si on avait les bulles.
Alexandre Devecchio.
Non, c'est curieux pour un parti qui s'appelle Renaissance, ça ressemble plutôt à la débandade, mais et puis Renaissance, c'est bien mal choisi parce que ça fait très vieux, effectivement. Emmanuel Macron, on a l'impression que c'est il faut que tout change pour que rien ne change. Et bon, c'est pas très pour
une
législative, c'est pas très vendeur non plus. Mais encore une fois, tout se jouera sur Emmanuel Macron. Je crois qu'il est assez content de ça. Il aime bien occuper l'affiche lui tout seul.
En cas de victoire d'Emmanuel Macron aux législatives, du moins de la majorité, pardonnez-moi, le Premier ministre, il est sur cette photo ou pas?
Peut-être que c'est ça qui fait qu'ils font la gueule. C'est qu'il est pas là.
On avance, messieurs. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la politique. Autre fait majeur cette semaine, eh bien, c'est cette manifestation, cette mobilisation des policiers qui se sont rassemblés lundi en soutien aux gardiens de la paix mis en examen pour homicide volontaire dans l'affaire du Pont-Neuf, ce drame du Pont-Neuf. Fabien Van Amerlich, qui est secrétaire général Alliance, a pris la parole et il a redit ce qu'il avait dit il y a un an. Le problème de la police, c'est la justice. On l'écoute.
Le policier ne peut plus travailler ainsi. Nous voulons, contrairement à ce qui se dit aussi, une complémentarité police-justice. Mais force est de constater qu'une certaine frange de celle-ci ne le souhaite pas par idéologie et dogmatisme. Alors, pour cette frange-là, Alliance Police Nationale persiste et signe. Le problème de la police reste la justice. Et je vous remercie.
Alexandre Devecchio, est-ce que le problème de la police, c'est la justice?
Vous avez comme une heure. Ça peut être,
vous avez une heure.
Ça peut être réducteur. Et j'entends les objections légitimes de Julien Drey parce que le problème.
J'ai rien dit encore. Il n'a pas encore parlé.
Non, mais avant même qu'il ait parlé.
Mais j'anticipe.
Parce que l'émission avant l'émission.
Voilà, c'est ça. Le problème en réalité est vaste. Par exemple, il y a un certain nombre de peines assez lourdes prononcées mais qui ne sont pas exécutées. Et ça, c'est pas la faute de la justice. C'est un problème de volonté politique. Il n'y a pas assez de places de prison. On a des gardes des sceaux qui libèrent les prisonniers pendant le Covid. Donc tout mettre sur les juges, c'est excessif. Par contre, je pense qu'il y a quand même une responsabilité des juges. Je me mets à la place des policiers qui arrêtent les délinquants, qui les voient ressortir immédiatement. Donc il y a un problème de procédure, de droit qui n'est plus adapté aux réalités du pays, et sans doute un problème idéologique chez une partie des juges. Le syndicat de la magistrature, je crois que c'est 25% des juges, c'est pas tous les juges, mais ils récitent la harangue de Baudot. La harangue de Baudot, c'est une harangue qui a été écrite par un juge syndicaliste. Et qu'est-ce que ça dit? Soyez partiaux, prenez parti pour la femme contre le mari, pour le débiteur contre le créancier, pour l'ouvrier contre le patron, pour le voleur contre la police, pour le plaideur contre la justice. Donc ça témoigne d'une idéologie de juge qui voit, si vous voulez, finalement, dans le délinquant, une victime plutôt qu'un coupable. Et donc ça, c'est aussi une réalité, c'est pas tous les juges, mais c'est une partie d'entre eux, et je comprends que certains policiers soient à bout de nerfs parce qu'ils font un métier difficile et risquent leur vie, et ils ont l'impression que ça ne sert à rien.
Avant de répondre à cette question, Julien Drey, vous parliez du syndicat de la magistrature. Juste après cette manifestation, ce syndicat a communiqué. Ils ont publié un long communiqué et dans lequel ils parlent notamment de la présomption de légitime défense. Voilà ce qui est écrit dans ce communiqué. Qu'induit la présomption de légitime défense revendiquée par certains syndicats de police? Dans quel régime politique des policiers peuvent-ils blesser ou tuer et jouir d'une présomption qui les dispense de s'en expliquer? On aurait pu enlever syndicat de la magistrature et mettre le nom d'un parti politique de gauche, par exemple, et on aurait pu avoir ce discours-là. Est-ce que certains magistrats, certains juges sont aujourd'hui politisés, Julien Drey?
Excusez-moi, mais dans ce qui est dit par la magistrature, je n'ai pas de désaccord.
Mais parce que vous êtes un responsable politique?
Oui, mais je suis pas. Mais parce que.
Est-ce que c'est le rôle des magistrats?
Non, mais les magistrats, ils disent, il y a dans l'affaire qui est en cause,
oui.
Il y a quand même deux morts.
Oui.
Comme il y a deux morts, c'est normal que la justice se doit, je dirais, de vérifier les conditions dans lesquelles les choses se
passent. Donc,
c'est pas mon rôle, c'est le rôle de la justice de ce pays.
Oui, mais ce que je veux dire sur la présomption de légitime défense, de dire ce qui est inscrit, ça, c'est pas trop.
Non, ils disent à juste titre, attention que la présomption de légitime défense ne conduise pas à ce que il y ait une sorte d'état d'impunité qui s'installe à partir de là. Voilà. Donc, ils rappellent un certain nombre de principes. Mais moi, je pense que là, ce qu'on est en train de faire, c'est pas bien. Pas nous, hein.
Oui.
Je pense qu'on peut pas opposer la justice à la police. Parce que les deux ont besoin l'un de l'autre. Ils doivent marcher main dans la main. Et donc, essayer en permanence de focaliser en disant c'est les juges gauchistes qui paralysent l'institution parce que, etc., est une erreur. C'est pas vrai, les juges, ils font la plupart du temps leur travail. C'est la chaîne pénale telle qu'elle est conçue.
Et le mur des cons, c'est qui?
Bon, il y a eu le mur des cons, mais comme il y a eu.
Sans dire que tous les juges sont politisés.
Mais comme il y a aussi des comportements, il y a aussi, on peut pas dire les policiers sont
bien
que des anges.
Sûr,
voilà, il y a eu aussi des choses qui sont passées et qui étaient répréhensibles. Ça ne met pas en cause l'institution policière ni les policiers en général.
Et vous avez entièrement raison, Julien Drey. Et d'ailleurs, et je le dis aux téléspectateurs, à 22h sur CNews, on aura un syndicat de police, un syndicat de magistrats, non pas pour les confronter, mais pour essayer de comprendre leurs difficultés et savoir comment ils peuvent travailler ensemble.
Mais c'est le pouvoir politique qui est en cause.
Ah bah oui, bien évidemment.
C'est pas la justice ou la police. C'est le pouvoir politique qui, pour les uns, ne donne pas les moyens nécessaires pour aller vite. Et c'est le pouvoir politique qui, pour les autres, ne crée pas les formations nécessaires pour qu'ils soient à l'abri de certains dérapages.
Non, mais d'abord, il y a plusieurs syndicats de magistrats.
On a parlé
du syndicat de la magistrature. J'ai dit c'est 25%, mais c'est quand même problématique. Parce que la harangue que je viens de vous citer, prenez parti pour le voleur contre la police. Et puis, il y a un préjugé social. C'est-à-dire que moi, en tant que citoyen, si un jour je dois être jugé, je préférerais que ce soit pas un juge du syndicat de la magistrature, parce que clairement ce qui est expliqué, c'est c'est un journaliste du Figaro, c'est un riche probablement, ils savent pas d'où je viens, et il est coupable parce qu'il a tel ou tel statut social. C'est exactement ce que ça veut dire. Donc c'est une idéologie problématique, et moi je trouve que c'est inquiétant et que ça mérite d'être soulevé. Maintenant, c'est pas tout tous les juges. Et effectivement, le problème est complexe et il y a une responsabilité majeure de la politique, du fonctionnement de la politique pénale. Et c'est lié aussi au manque de moyens, au manque de places de prison, parce que les politiques ne veulent pas construire des prisons parce qu'on ne voit pas les résultats à court terme, puisqu'il faut des années pour en construire.
Et on y viendra pour le sujet.
La réponse, ce n'est pas simplement la prison, justement. Une fuite en avant de croire que simplement parce qu'on va construire des prisons, des places de prison, on va résoudre le problème de la montée de la violence dans ce pays. Oui. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas de prison. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas des peines de prison. Mais ça veut dire que, par exemple, quand je le redis, quand vous n'êtes pas capable de discerner entre ce que le petit délinquant et le grand délinquant, et quand vous mélangez les deux, vous fabriquez dans la prison que des grands délinquants.
On va y venir dans
un instant
sur ce sujet.
Ça, c'est le taux de récidive qui le prouve. Ça veut dire qu'il manque. Et c'est un des problèmes qui est posé, y compris dans le rapport entre la police et la justice, c'est qu'il manque aux juges des instruments qui permettent, notamment par exemple dans la délinquance des mineurs, d'avoir des solutions rapides et immédiates.
Mais pour clore cette thématique-là, imaginons que dans 5 ans, puisque c'était un projet qui était avancé par certains partis politiques, qu'il y ait la présomption de légitime défense qui soit votée à l'Assemblée. Ils font quoi les juges après ? Les magistrats ?
Donc, d'abord, il faudrait qu'elle soit votée à l'Assemblée nationale.
Oui.
Bon, après, je sais pas. Honnêtement, je pense que d'un point de vue rédaction juridictionnelle, ça va être très compliqué de l'écrire.
Écoutez, je pense que ça sera plus simple que de le faire appliquer ensuite par les juges. Mais ça, c'est seulement un avis. Revenons à quelque chose de beaucoup plus sérieux et dramatique. Et ça rejoint notre thématique. À Nancy, mercredi 27 avril, une jeune femme de 22 ans est violée en pleine rue. Le suspect est interpellé lundi dernier. Cet homme avait été condamné en 2010. À 20 ans de prison. Pourquoi ? Parce qu'il avait tué une femme. 12 ans plus tard, il viole une jeune fille de 22 ans dans la rue. On voit le sujet de Valérie Labonne.
Le 27 avril dernier, à Nancy, vers 22h30, une jeune femme de 22 ans rentre chez elle après sa journée de travail quand un homme la menace d'un couteau et la viole. Les analyses génétiques effectuées dévoilent l'ADN d'un homme déjà enregistré sur le fichier national des empreintes génétiques. Le suspect interpellé avait été condamné en 2010 à 20 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de Douai pour le meurtre d'une vieille dame. Incarcéré à Nancy, il avait bénéficié d'une libération conditionnelle.
Des précautions avaient été prises. Il y a eu plusieurs expertises psychiatriques qui avaient estimé que le risque de récidive n'était pas avéré, qu'il était réinsérable, qu'il présentait toutes les conditions. Tout de même, on ne peut pas dire que dans cette affaire-là, il y a eu un dysfonctionnement ou une mise en liberté à la légère de la part du juge d'application des peines.
Comme le permet la loi, l'homme avait bénéficié de nombreuses remises de peine. À sa sortie de prison, il avait également respecté ses obligations de soins et exerçait le métier de jardinier auprès d'une association de réinsertion. Lors de son audition, il a nié les faits. Présenté à un juge d'instruction, il a été mis en examen pour viol sous la menace d'une arme et menace de mort, puis placé en détention.
Avant de réagir, messieurs, la Minute Info.
La Russie restera pour toujours dans le sud de l'Ukraine. Un haut responsable parlementaire russe l'a annoncé ce vendredi lors d'une visite à Kherson. Selon Andrei Tourtchak, il n'y aura aucun retour vers le passé. Nous allons vivre ensemble, développer cette région riche. Des grandes puissances agricoles promettent la sécurité alimentaire du monde malgré la guerre en Ukraine. 51 membres de l'Organisation mondiale du commerce ont rédigé un communiqué conjoint ce vendredi. Ils promettent également de ne pas imposer de mesures commerciales restrictives injustifiées sur certains produits clés pour la production. Forte explosion dans un hôtel en travaux du centre de la Havane. La façade de l'hôtel Saratoga, classée 5 étoiles, a été en partie endommagée ce vendredi. Les 4 premiers étages ont été complètement soufflés. Sur son compte Twitter, la présidence cubaine évoque un drame provoqué par une fuite de gaz. Bilan, au moins 8 morts et 13 disparus.
Ouais, c'est le sujet de... Voilà pour la Minute Info, messieurs. Je répète juste les faits, ce qu'il s'est passé. Donc, mercredi 27 avril, une femme de 22 ans est violée en pleine rue à Nancy. Un suspect est interpellé le lundi suivant. Ce suspect avait été condamné en 2010 à 20 ans de prison parce qu'il avait tué une femme. Et 12 ans plus tard, il est suspecté donc de violer cette femme. Évidemment, on verra si il sera condamné pour ça, ou en tous les cas si c'était effectivement le principal suspect.
Petite précision même sur les faits, parce que c'est quand même important. Il n'est pas simplement responsable d'un meurtre. Il a poignardé 82 fois une femme de 79 ans. Donc c'est un meurtre sauvage, barbare, face à une victime qui a priori était sans défense. Donc en France, apparemment, on peut commettre ce type d'acte être condamné à 20 ans de prison, ressortir au bout de 10 ans, puisqu'il est ressorti au bout de 10 ans, pas au bout de 12, et récidiver. Là, il fait un viol en pleine rue avec la menace d'un couteau. Moi, j'avoue, quand j'ai vu les faits, c'est moi qui voulu parler du sujet, parce que j'étais surpris. J'ai dit tout à l'heure les doutes que je pouvais avoir sur la justice dans ce pays, mais je n'y croyais pas. Je trouve que ces faits sont déments, et là, pose clairement la question de la responsabilité des juges. Parce que si les policiers doivent être responsables, s'il y a une police des policiers, je me demande s'il ne doit pas y avoir une justice de la justice. Moi, je pense que les juges et les psychiatres qui ont relâché cet homme devraient s'expliquer. Je ne dis pas qu'ils sont coupables, mais je pense que de la même manière que quand un policier en état de légitime défense tue deux personnes, c'est normal qu'il y ait une enquête et qu'on ait des explications. Là, il devrait y avoir des explications. Et puis, ça pose le problème, je pense, de la. Je pense qu'il faut. Je ne suis pas pour la peine de mort, mais par contre, une perpétuité réelle. Quand quelqu'un assassine à coup de couteau 82 fois une personne âgée, il devrait faire de la perpétuité réelle et encore moins sortir à la moitié de sa peine, puisqu'il est sorti au bout de 10 ans et avait été condamné avant.
Julien Drey, faut-il une justice de la justice, tiens?
Je pense que de toute manière, dans une affaire comme celle-là, c'est clair que la justice va avoir à rendre des comptes et à s'expliquer. Et c'est normal. Quels sont les éléments qui ont permis et qui ont conduit les magistrats à estimer que la personne en question pouvait bénéficier d'une libération conditionnelle? Moi, je n'ai pas les éléments du dossier et je vais me garder de tout de suite me précipiter en disant c'est un scandale. Il faut que je... La faute, elle existe. La faute humaine, elle existe. La faute du jugement, elle existe. Il faut avoir l'honnêteté de le dire. Évidemment, c'est terrible après quand vous faites une faute. Parce que, voilà, mais vous avez aussi des individus. Ils sont particulièrement habiles pour dissimuler un certain nombre de choses, y compris aux experts psychiatriques qui ont normalement été sollicités en la matière, donc ont été chargés d'évaluer. Vous avez un rapport de l'administration pénitentiaire sur le comportement de l'individu. Donc c'est pas un juge qui s'est levé un matin en disant tiens, je le libère, quoi. Il faut donc faire attention. Maintenant, donc la faute humaine existe. Elle est terrible parce qu'elle produit, on l'a vu, des conséquences dramatiques. Et voilà. Alors, est-ce qu'on pourra avoir zéro faute humaine? Je n'y crois pas. Mais il faut quand même regarder si, dans le déroulé des faits, il y a eu des choses qui n'ont pas été traitées comme il fallait. Est-ce qu'ils ont été trop vite? Est-ce qu'ils n'ont pas entendu des messages qui ont été donnés? Et si des fautes ont été commises, il faudra effectivement tirer des conséquences.
Et l'institution judiciaire. Est-ce qu'il vous paraît normal que quelqu'un qui poignarde 82 fois une personne âgée de presque 80 ans ressorte au bout de 10 ans? Mais
rien n'est normal. Il y a une décision de justice qui a été prise. Je ne connais pas le dossier qui a conduit à cette décision de justice, donc vous allez m'interpeller sur quelque chose, je ne sais pas.
Mais les remises de peine là, c'est de 10 ans pour des faits de cette gravité-là.
Non, là, c'est pas une remise de peine.
Ah, ça, si, les remises c'est de peine. Libération à l'avance.
Les remises de peine, c'est un processus qui se fait pour gérer dans les prisons, tous les individus qu'on enferme, en donnant des perspectives de réinsertion. Ce qu'on condamne, il y a deux règles pour l'administration pénitentiaire, c'est la sanction et la préparation de la réinsertion.
Mais là, il a même pas purgé sa peine, il était condamné à 20 ans, ce qui est pas beaucoup.
Non, il a fait, comme c'est logique, il a fait la moitié en détention ferme, et après, commence à se mettre en place la liberté conditionnelle. Ça veut pas dire, voilà, donc il faut regarder ce qui a conduit à faire que on puisse se dire.
Et sur la peine à perpétuité incompressible.
Mais la peine à perpétuité incompressible, il faudrait regarder le dossier de départ.
Non, mais de manière.
Est-ce qu'elle ne devrait pas exister? Il y a un droit pour éviter ce genre de choses.
Ceux qui gèrent l'administration pénitentiaire vous diront que quand vous mettez en place des perpétuités, il faut gérer après les individus à l'intérieur de la maison. Hein. C'est-à-dire, si vous ne donnez pas la perspective à un moment donné, une forme de réinsertion, c'est très, très difficile parce que d'un certain point de vue, vous poussez les gens à des situations terribles.
Ensuite, Julien Drey, voilà. Vous avez dit ils vont s'expliquer, c'est sûr, etc. Moi, je n'en suis pas persuadé. D'ailleurs, je suis surpris. J'ai vu ça dans le Figaro, c'était une brève, hein, fait divers. Surpris qu'il n'y ait pas un scandale national autour de ça et je n'ai pas le sentiment qu'on va voir les juges s'expliquer. Ça n'en prend pas le chemin. Si, je pense qu'il doit y avoir une instance dans ces cas-là.
Mais il y a un conseil de discipline. De toute manière, déjà, le ministre de la Justice va être obligé de demander.
J'ai pas entendu le garde des Sceaux.
Vous l'avez peut-être pas entendu, mais c'est les procédures judiciaires qui sont normales.
Pour l'instant, ça reste le principal suspect. On n'a pas, c'est pas encore arrivé.
Il est évident que le ministère de la Justice va être obligé, ne serait-ce parce que les avocats.
Il a reconnu les faits.
Vont mettre la pression. Voilà. Donc, je pense qu'il faut, c'est toujours la même chose. Il faut quand même qu'on regarde bien le détail de ce qui s'est passé. S'il y a des fautes, il faut que la sanction soit établie. Mais avant de se précipiter pour dire qu'il y a une faute, je voudrais regarder comment les choses sont passées.
Merci.
Acast powers the world's best podcasts. here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There are stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like wary of the police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.